Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine. Et ce matin, quelques fictions et non-fictions réconfortantes pour accompagner ce week-end et les vacances de la Toussaint. Autour de la table, Éric Libiot, Julien Bisson et Christine Ferniaud. Et puis notre chef Angèle Ferremag nous régalera d'une pâtisserie pour les goûter de ses vacances automnales. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
En pleine forme.
En pleine forme.
Quel est le menu de votre chronique philosophique?
Eh bien, une série dont tout le monde parle, Squid Game.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, l'ami du vendredi, c'est un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui avez-vous choisi cette semaine?
Écoutez, j'ai choisi un commissaire et c'est incroyable. Plus il est rêveur et plus il trouve le coupable.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui ne supporte pas que je la vous voie pendant sa chronique. Quel est le menu de ta chronique sexe?
Je suis très premier degré, je reste sur les fictions réconfortantes. Alors ça peut être ma femme a tout le temps la migraine ou mon mari est en séminaire d'entreprise, on sait ce que ça veut dire. Voilà.
À tout à l'heure, n'hésitez pas à échanger sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes la chef de la guinguette d'Angèle à Paris et vous avez publié chez Marabout, Beau, Simple et Sain. Et tout à l'heure, une douceur pour les goûter des vacances de la Toussaint.
Et oui, je vais vous parler des niflettes. Les niflettes, c'est un petit peu les tartelettes de la Toussaint, à base de pâtes feuilletées croquantes et chantantes d'abord et au cœur crémeux, aromatisé à la fleur d'oranger.
Mais on dirait une pâtisserie chez Harry Potter.
Oui.
Ah, moi, j'aimerais bien faire des niflettes avec Hermione.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef du 1 Hebdo, vous venez d'éditer le gros volume consacré aux fictions destinées aux adultes de Roald Dahl, Conte de l'inattendu chez Gallimard. Quelques fictions tout au long de cette émission, qu'est-ce que vous avez choisi cette semaine?
Eh bien, on parlera des baisers. Parce que le baiser réconforte, il paraît, donc on fera un petit éloge de la galoche. Et ensuite, on partira vers le sud de l'Italie avec Luca.
Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Journaliste, écrivain, vous avez publié en début d'année chez Stock, Clint et moi. Clint, c'est évidemment Clint Eastwood.
Et moi.
Oui, ça je sais, on le sait. Dans votre panier.
Eh bien écoutez, il y aura le nouveau roman de Michael Connelly, L'innocence et la loi, et puis une réhabilitation du cinéaste Gilles Grangier, dont on sort les DVD qu'on peut revoir en salle, et il y a un livre d'entretien qui sort également.
Bonjour Christine Ferniaud.
Bonjour Ali.
Journaliste à Télérama, alias Princesse Christine, dans une autre vie radiophonique, dans votre sac en toile de jute.
Alors, du voyage, de l'espace, avec ce gourmand Jim Harrison, et puis peut-être un peu d'Italie avec Paolo Cognetti, et si on a le temps, des histoires de poulets.
Ah bon, mais ça promet. Allez, on commence cette sélection de fiction idéale pour la Toussaint avec vous, Julien Bisson. Vous avez vu, je mets la barre très haut avec le générique de Bouillon de culture de Bernard Pivot. Bon, alors vous avez choisi...
C'est aussi parce que tout le monde est enrhumé dans cette émission. Si
oui, c'est vrai. Vous avez choisi Le petit éloge du baiser de Jérôme Attal aux éditions Pérégrine. Nous l'avons reçu récemment et je partage votre enthousiasme pour ce joli livre de Jérôme Attal, romancier, scénariste, auteur, compositeur et bien d'autres choses.
Et oui, c'est un livre qui gagnerait à être lu. Vous savez, aujourd'hui, en ce moment, on a les grands débats sur le retour de la bise. Et savoir si, est-ce que la bise, il faut qu'elle revienne un petit peu dans nos vies ou pas. Moi, la question que je me pose, c'est plutôt, est-ce que le retour du baiser doit se faire dans nos vies? Il y avait le code Hays au cinéma dans les années 30 qui disait qu'on ne devait pas montrer au cinéma des baisers qui durent plus de 30 secondes. Et bien parfois, j'ai l'impression qu'on vit une grande partie de nos existences sous le signe du code Hays et qu'on ne s'embrasse plus pendant plus de 30 secondes et qu'il est grand temps de reprendre le goût du baiser, le goût de la galoche et de voir passer les emballements de nos 20 ans.
C'est la chronique sexe qui a déjà commencé ou pas du tout?
Jérôme Attal, il nous fait ce petit livre qui s'appelle Le petit éloge du baiser et c'est assez formidable parce qu'il voyage à travers sa propre vie et à travers des baisers qui nous sont tous familiers. Il reprend le baiser de Doineau, il reprend le baiser de Rachel et Ross dans Friends, il revient sur Serge Gainsbourg, L'eau à la bouche, les baisers de la Boom, les chansons des Beatles et à travers tout cela, il nous fait une petite mythologie du baiser qui nous incite à revisiter ce qu'on met derrière ce moment-là. Il voudrait écrire la liste des filles qu'on aurait voulu embrasser. Je pense que ça peut être une liste assez longue pour nous tous. Et il dit aussi, faisons de chacun de nos baisers une scène d'anthologie. Il arrive à parler magnifiquement de ce moment du baiser, ce moment de l'approche, de la découverte de l'inattendu. Il dit qu'à un moment que le baiser est comme un ruban. Le baiser ruban, c'est-à-dire c'est le moment où on va découvrir ce qu'il y a sous l'emballage. Quel est le cadeau qu'il y a sous l'emballage ?
Alors ça me fait penser parce que Julien, tu parlais du code Hayes et
1934.
Voilà. Oh, bien, bien. Incroyable. Vous êtes en direct sur la question, amis. Et Alfred Hitchcock avait contourné ça avec en fait une mise en scène qui me fait penser parce qu'une mise en scène ruban dans Les Enchaînés. Cary Grant et Ingrid Bergman s'embrassent beaucoup plus que le temps légal à l'époque, mais parce qu'en fait, ils téléphonent en même temps et en faisant une danse autour de cet appareil du téléphone, ils s'embrassent, se réembrassent, se désembrassent, se réembrassent comme un ruban.
Voilà, on devrait tous faire comme Cary Grant et Ingrid Bergman. Il parle des baisers volés, il parle des baisers inattendus. Il dit que souvent le baiser le plus beau, c'est celui auquel on ne s'attendait pas. Et il a, je vais citer un petit paragraphe qui va tous nous donner envie de nous embrasser. Si vous voulez prendre une longueur d'avance sur la vie, embrassez la personne qui vous plaît. Dans une fête, sur le siège arrière d'une voiture, sur les grands boulevards ou dans les jardins du Luxembourg, dans la nacelle du London Eye ou dans le wagon net du train fantôme de la fête des loges. Ouvrez une trappe dans l'espace-temps, criez « Hourra !» avec la langue, jetez-vous au cou de l'autre, embrassez, osez embrasser. Le baiser, c'est le cœur qui donne au corps un coup de pied au cul.
Julien Bisson, vous ne pourrez embrasser ni Thibaut de Saint-Maurice, ni Éric Libio, ni moi, on a tous la crève là. C'est trop compliqué. Moi, il vous reste...
Eh bien, je vous embrasse sur les ondes alors.
Le petit éloge du baiser de Jérôme Attal, c'est publié aux éditions Pérégrine. Princesse Christine Ferniaud, vous avez envie que nous lisions un nouveau recueil de textes de Jim Harrison, La recherche de l'authentique, sous-titré L'amour, l'esprit, la littérature, et c'est publié chez Flammarion. Je cite la quatrième de couverture, j'écris pour continuer de devenir une rivière, ne figurant sur aucune carte, cette rivière me va comme ma peau.
Alors je pense que Jim Harrison savait très bien embrasser. C'est un livre absolument indispensable. D'abord, il est très beau, il y a quelques photos de lui, des dessins, des textes en exergue. C'est très agréable à toucher déjà, et c'est bien quand même un livre qu'on a envie de toucher. Et puis, il nous parle d'écriture.
Rappelez qui était Jim Harrison tout de même.
Eh bien, Jim Harrison, d'abord... C'était un immense gourmand, un garçon du Montana, du Michigan, qui aimait manger, qui aimait écrire, qui aimait les femmes, mais qui n'en parlait pas beaucoup. Et c'est un merveilleux auteur, et citons D'Alva, par exemple, comme livre...
Légende d'automne.
D'Alva, mais moi, ça m'a fait pleurer d'émotion, de passion, c'était une histoire d'amour et de perte, comme il savait absolument être le seul à les faire avec son côté un peu gros dur du Montana quand même. Et là, il nous explique comment commence l'écriture, comment il décide d'écrire, à quoi peut ressembler la poésie. Il a des admirations parce que tous les grands écrivains parlent des autres. Et on les reconnaîtra comme ça. Ceux qui ne parlent que d'eux, on peut tout de suite les éliminer et personne ne pense à personne. Mais il aime beaucoup parler de Bukowski, de Neruda, de Thoreau et il en parle magnifiquement. Et puis il parle de choses plus étranges, plus naturelles, comme la chasse et la pêche. Et c'est un magnifique pêcheur. Et franchement, moi, mon rêve, ça aurait été d'aller à la pêche à la mouche avec lui et partir comme ça. Et puis, il aime le sport, donc journaliste sportif, il a eu des textes formidables. Il parle très, très bien de sa région, effectivement, du Montana. C'est un recueil de textes avec des inédits, des textes qu'on a peut-être vu passer dans des magazines. Mais c'est un moment de grandeur et de fraîcheur et de voyage qui fait un bien, mais un bien fou. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit là, Jim Harrison. Et on parle pas de cuisine parce qu'il y a eu un autre livre où il ne parlait que de ça. Donc,
vous en aviez parlé ici, d'ailleurs.
Mais oui, mais c'est une obsession chez moi.
Julien Bisson sur Jim Harrison.
Oui, Jim Harrison, c'est vraiment l'un des grands romanciers américains des 30-40 dernières années. Et qui a une place qui est assez étonnante parce que elle est beaucoup plus reconnue en France qu'elle ne l'est aux États-Unis. C'est vrai, souvent des écrivains américains. Mais pour Jim Harrison, ça l'est plus particulièrement et notamment, il aimait du coup particulièrement venir en France pour défendre ses livres parce qu'il savait que en venant en France, il allait justement pouvoir faire le tour des caves, faire le tour des restaurants. Il a écrit un texte assez incroyable sur un quelque chose qui s'appelle un gueuleton formidable, quelque chose comme ça.
Effectivement, on en avait parlé.
Un repas qui avait duré 11h30 et il raconte ce repas de 11h30. Et c'est vrai qu'il est formidable quand il parle de son rapport aux Amérindiens. Mmh. Il a vraiment des livres qui sont très beaux ceux là-dessus. Mais il sait aussi parler de la chair dans toutes les orthographes du mot, vraiment comme personne.
La recherche de l'authentique, sous-titré L'amour, l'esprit, la littérature. C'est signé Jim Harrison et c'est le conseil de Christine Ferniaud. Éric Libiot, vous nous conseillez carrément la plus belle bande dessinée de l'année. Voilà. René au bois dormant d'Hélène Usdin, ou Usdin, je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est publié chez Sarbacane.
Effectivement, l'année n'est pas finie, mais on peut l'annoncer, c'est la plus belle bande dessinée de l'année. Très compliqué à parler à la radio, parce que c'est une bande dessinée où le dessin s'exprime pleinement, où les couleurs racontent le sujet, où la mise en case, donne du sens à l'intrigue. C'est assez exceptionnel ce que fait cet auteur et cette dessinatrice. Ça commence dans un pays un peu étrange avec des bêtes un peu mythologiques, et puis tout d'un coup on fait la connaissance d'un jeune garçon qui s'appelle René, qui est un petit garçon d'une famille un peu étrange, un peu curieuse, qui habite au 10e étage d'un immeuble d'une ville immense. On ne sait pas trop où c'est, sans doute aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord. Et puis ce petit garçon s'endort et tout d'un coup c'est ses rêves. Alors évidemment on imagine que c'est un petit peu Alice au pays des merveilles, mais là en l'occurrence c'est René au pays étrange. On ne sait pas s'il cauchemarde ou s'il rêve. Et puis toute l'intrigue avance petit à petit, les personnages se fondent dans les couleurs, dans les cases. C'est absolument exceptionnel. Chaque page est un chef-d'œuvre de couleurs et de dessins. Et puis petit à petit, il y a une intrigue qui commence à se lier, ce qui est assez beau parce que au début on plonge dans une espèce de rêverie et puis après le sujet commence à éclore. Et on se rend compte que Hélène Usdin raconte la tragédie des peuples amérindiens au Canada. Et tout d'un coup, tout se mêle à la fois alors c'est pas du tout un album militant, mais à la fois le sujet, cette tragédie, et puis la beauté d'un dessin qui est absolument, moi j'ai rarement vu ça, c'est absolument exceptionnel. C'est un très beau cadeau à faire à Noël et à faire à soi-même d'ailleurs aussi.
Et à lire pendant ces vacances de la Toussaint. René au bois dormant d'Hélène Usdin, c'est publié chez Sarbacane. Dans quelques instants, nos camarades du vendredi vous conseilleront d'autres œuvres réconfortantes, mais avant cela, il est temps de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Ma chère Hermione Odissino, qui mérite notre amitié cette semaine?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ressens toujours un petit frisson d'angoisse le long de la colonne vertébrale quand on me demande d'être efficace. Et alors le frisson se meut carrément en migraine quand on me conseille de performer.
Oula.
Ou d'être proactive. Alors là franchement, mais comment faire pour être pro, enfin pro n'importe quoi d'ailleurs, dans un monde si problématique? Pour tout vous dire, devant les multiples probabilités d'une journée, je préfère procrastiner. Et aller déambuler sans but précis avec un pelleteur de nuages. C'est ainsi que beaucoup surnomment cet ami que je veux vous faire aimer, et dont je vous avoue être un peu amoureuse aussi sur les bords. Jean-Baptiste Adamsberg. Le commissaire d'une bonne, très bonne poignée des fabuleux romans policiers de Fred Vargas. Alors Adamsberg n'est pas un flic, hein. Enfin si, mais pas vraiment. C'est une âme ambulante qui résout toutes ces enquêtes criminelles sans le moindre début de bout de méthode. Jean-Baptiste est décrit ainsi par un de ses collègues, dès le premier Fred Vargas dont il est le héros, l'homme au cercle bleu. Tu es là, tu traînes, tu rêves, tu contemples les murs, tu griffonnes des croquis sur tes genoux. Et oui, contrairement à tous ces mecs qui pensent que la virilité consiste à occuper fermement le terrain, mon ami, lui, plane, erre, digresse physiquement comme intellectuellement. L'esprit de cet homme est un paysage brumeux. Et c'est justement en suivant ses intuitions farfelues, comme des petits cailloux sur les chemins de l'étrange, qu'il arrête le coupable. Alors contrairement au type qui pense sincèrement aussi que réussir consiste à avoir une Rolex à 50 ans, Adamsberg porte deux montres au poignet, mais aucune ne marche. Ce qui compte, messieurs, ce n'est pas le temps, c'est le bras qui le porte. Et la vérité ne se dévoile jamais aux hommes trop pressés. Je voudrais embrasser Adamsberg, tant il est le contraire de tous ces guides qui vous encouragent à jeter des objets précieux pour vous, sous prétexte qu'ils sont cassés, usés, qu'ils ne sont plus fonctionnels. Alors l'amitié non plus, hein, ça ne sert à rien de précis. Elle peut juste être un paysage que l'on aime retrouver. Et alors avec Jean-Baptiste, je suis servie, hein, puisqu'il peut disparaître ou s'endormir soudain quand dans sa tête, il y a trop de nuages à pelleter. Physiquement, je voudrais bien vous le décrire, mais il est indescriptible. Comme si les traits de son visage étaient fluctuants. Cela dépend de la météo, des légendes du Moyen-Âge, de la violence qu'il doit combattre et des pays qu'il traverse pour ses enquêtes. Dans Temps glaciaire, par exemple, sa 8e enquête, mon commissaire lutte avec un mort-vivant en Islande. Et je crois que c'est Danglar, son adjoint, alors un autre pote, hein, que j'aime fréquenter pour son savoir encyclopédique et sa tendance pour le muscader à toute heure. Alors Danglar qui s'inquiète pour lui, envisageant très sérieusement que par effet de fusion chimique entre les brumes d'un être et celles d'un pays, Adamsberg ne s'engloutisse en Islande et n'en revienne jamais. Mais il revient.
Et je ne vous comprends pas, commissaire. On a déjà fait plusieurs fois le parcours entre le domicile et le lieu du meurtre. On l'a même chronométré pendant que vous étiez dans vos brumes islandaises.
Je ne vous parle pas de ça, Danglar.
Bah, de quoi, alors?
Nous sommes d'accord. Parmi les milliards de pissenlits qui poussent sur Terre, il n'y en a pas deux semblables.
Oui, je suis d'accord, mais je vois pas.
Eh bien, c'est pareil pour les deux conducteurs. Il n'y en a pas deux semblables. Alors, vous allez me convoquer le pissenlit numéro 1, Maître Carvin, et, pour 14h, et le pissenlit numéro 2, Nassim, pour 15h. On fera un tour. Et puis, demandez aussi à la brigade technique de venir pour les empreintes. Voilà.
J'avais peur que vous ayez changé en Islande.
Et ?
Mais je comprends rien, je suis rassuré.
Alors j'avoue que dans les adaptations télé de certains Fred Vargas, la réalisatrice José Dayan a eu du nez, hein, en donnant à l'indescriptible Adamsberg les traits du planant Jean-Hugues Anglade. Donc vous l'avez entendu, ce commissaire est un homme qui rassure quand justement on a du mal à le suivre. Danglar, encore lui, le définit parfaitement, sous la plume merveilleuse de Vargas. Seul Adamsberg était capable de distordre la vie ordinaire pour en extraire ses incartades, ses courts éclats de beauté saugrenue. Alors au moment où certains hommes très proactifs pensent à coloniser l'espace car ils ne jugent plus la Terre suffisamment fonctionnelle, mon ami, lui, continue d'y trouver des indices d'intérêt en ayant l'air de glander. À Danglar, un jour, il a répondu « Vous croyez toujours que je ne fous rien ?» sous prétexte que je ne fous rien. Mais la réalité n'est jamais si simple. Et ça, c'est vraiment le conseil d'un ami qui me veut du bien.
L'ami du vendredi à retrouver sur l'appli et le site de France Inter. Et je vois que Christine Ferniaud, grande spécialiste du polar, a acquiescé à tout ce que vous disiez.
Mais je me disais, mais je vais bien essayer de glisser quelque chose, mon petit savoir et tout, la ramener un petit peu, mais je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. C'est vraiment ça. Et effectivement, c'est un merveilleux glandeur. C'est pas du roman policier, c'est pas du polar, c'est pas du roman noir, c'est du Fred Vargas et ça n'appartient à aucune école et c'est tout à fait juste.
Allez, tout au long de la semaine...
Merci, votre majesté.
Tout au long de la semaine, Grand Main Vous Fasse a été préparé par Alexia Rivière, Camille Poux-Jaguier, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destacan, avec à la technique cette semaine, un trio éminemment sympathique, Pauline Laverdure, Kevin Pelot et Rémi Sistiaga. Programmation musicale, Valentine Chedebois, et on écoute REM.
Town.
REM, Shiny Happy People, ça vous rappelle des choses, Guillemette?
Bah, des baisers.
Forcément.
J'aurais plus de temps pour les petits câlins, parce que quand on travaille, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de temps pour les câlins, voilà.
Grand bien vous fasse.
Donc, j'espère que tout le monde prendra un peu de temps pour plus de câlins. C'est important dans la vie.
Sur France Inter.
On va tous se câliner dans Grand bien vous fasse avec la bande de chroniqueurs du vendredi. Quelques œuvres pour vous accompagner pendant les vacances de la Toussaint. Julien Bisson, un film pour toute la famille. Luca, un film Pixar signé Enrico Casarosa, sorti en juin dernier et disponible en DVD et VOD.
Oui, parce que pendant les vacances de la Toussaint, il fait parfois un peu froid, le temps peut être gris, on rêve un petit peu de soleil. Eh bien, je vous emmène justement prendre le soleil. Rendez-vous dans un pays noyé de lumière et de musique.
Luca, tu me fais de la peine. Allez, tu viens.
Vous l'aurez compris, nous sommes en Italie. Alors vous allez me dire, je radote, je vous parle encore d'un film Pixar. Oui, c'est vrai, mais c'est la qualité qui parfois nous oblige à parler des bons films. Alors Luca, c'est donc un film sorti en juin dernier et qui raconte l'histoire d'un monstre marin, un monstre marin préadolescent qui vit avec ses parents dans une crique, sous l'eau, au bord de la Riviera italienne. Alors ses parents leur disent, mais il y a des monstres là-haut, il faut absolument pas sortir de l'eau parce que ce serait très 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 dangereux, il y a des chasseurs qui vont venir te chercher. Et donc lui rêve que d'une chose, c'est d'arriver à sortir de l'eau et aller rejoindre là-haut ce qui se passe et pour voir le monde des humains. Et il rencontre un autre monstre marin tout aussi jeune que lui, Alberto, et ensemble, ils se rendent compte qu'ils ont le même rêve. Et leur rêve commun, c'est d'avoir une Vespa. Et pour avoir cette Vespa, il décide un jour de fuguer et de sortir de l'eau. Il se rend compte que quand il sort de l'eau, il se transforme en être humain. Et donc, les êtres humains qu'ils vont croiser ne vont pas les reconnaître. À condition, certes, de ne pas se faire mouiller. Parce que dès qu'ils vont être mouillés, eh bien, ils vont d'un seul coup avoir leurs écailles qui vont réapparaître. Et il découvre, avec la jeune Julia, qu'il y a la Porto Rosso Cup. Et la Porto Rosso Cup va pouvoir peut-être leur donner les moyens, enfin, de s'offrir la Vespa de leur rêve. Alors Luca, c'est vraiment un film coloré, un film joyeux, un film tendre. Vous allez me dire, bon, c'est une histoire d'amitié, une histoire de tolérance, on a un peu déjà vu ça dans tous les dessins animés des 10 dernières années. Oui, c'est vrai. Mais c'est ici magnifié par un humour, par une tendresse et par une qualité d'animation absolument époustouflante. Il y a une mention spéciale pour une course en vélo et notamment une descente à toute vitesse, une folle descente sous la pluie et sur les pavés du petit village de Porto Rosso. Parce que c'est aussi ça qui fait tout le charme de Luca, c'est le cadre, le décor de ce film d'animation. On est dans une Italie fantasmée, l'Italie de Toto, l'Italie de Fellini, l'Italie qu'on peut voir dans des films comme Le talentueux Monsieur Ripley. Bien sûr, c'est bourré de clichés. Mais vous allez me dire, quand c'est pas simplement des clichés, c'est les bons ingrédients d'une bonne recette. Quand vous allez manger des pâtes à la bolognaise, vous n'allez pas me dire, c'est des clichés, il y a de la tomate et des oignons. Non, on a besoin de ça pour recréer une Italie fantasmée. Donc voilà, savourez, comme on peut savourer un bon plat de pâtes bolognaise. C'est à regarder en famille, parce que aussi bien les enfants que leurs parents vont adorer ce film. Et c'est véritablement l'un des coups de cœur qui va vous permettre de voyager, mettre un petit peu de soleil dans vos vacances de Toussaint.
Sur le conseil de tonton Julien?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec tonton Julien. Enfin, il a plutôt l'âge d'être mon neveu, mais... je sais pas, vous prenez la petite sirène, vous mélangez avec Dino Risi, vous imaginez qu'un petit monstre marin, en fait, c'est Vittorio Gassman jeune, et c'est un peu ça. Donc oui, pour les petits et les grands.
Je sens que quand j'allais est séduite, vous êtes séduite.
Ah, je suis séduite et j'adore Porto Rosso. Et d'ailleurs, si vous y allez, ne manquez pas d'aller au restaurant Monopoly.
Merci Angèle pour cette intervention. Luca, c'est donc disponible sur les plateformes.
Sur la plateforme de Disney+.
Christine Fernion, on reste en Italie. Vous nous conseillez un hymne à la montagne et à l'amour, La félicité du loup de Paolo Cognetti, publié chez Stock.
Mais oui, on reste en Italie forcément, puisqu'on a dit qu'on parlait de fictions qui font du bien. Alors, on est dans un refuge de Fontana Fredda, du côté du Val d'Aoste, dans un restaurant. Alors, je suis désolée, il y a toujours des restaurants dans mes histoires.
C'est vrai.
Et il y a Fausto, qui est le cuisinier de Babette, et qui vient là parce que il en a assez de la ville, il en a assez de Milan, il veut quitter la société, la civilisation, et il monte dans ce coin comme ça du Val d'Aoste, où on atteint les montagnes et où on voit le matin le soleil apparaître. Et il y a aussi une femme, évidemment, dans cet endroit. Une femme qui, elle aussi, veut quitter la société. Et je vous en dirai pas plus, parce que de toute façon, tout l'intérêt, c'est plutôt de monter dans la montagne avec Fausto et son ami, d'aller au dernier refuge, d'attendre le petit matin, de boire le thé en regardant la montagne. C'est un livre d'une poésie, d'une beauté, d'une émotion. L'histoire, elle tient sur rien du tout, mais elle tient sur une écriture, mais absolument merveilleuse. C'est mélancolique, c'est beau, c'est je sais pas, c'est comme, comme l'apparition du loup au petit matin aussi dans la montagne.
Méthodicino, là vous avez très envie de piquer la félicité du loup de Paolo Cognetti là.
Ah oui, absolument. J'ai très envie de parler comme Christine Fernio aussi.
La félicité du loup de Paolo Cognetti, c'est publié chez Stock. Éric Libio, vous nous conseillez un livre d'entretien entre Gilles Grangier et François Guérif. Passer la Loire, c'est l'aventure, publié chez Actes Sud.
Voilà, exact, vous avez tout dit. Alors, François Guérif, c'est un grand monsieur du polar, un grand éditeur, notre maître à tous. Et Gilles Grangier, alors peut-être que les auditeurs, les auditrices ne connaissent pas forcément Gilles Grangier. On connaît ses films plus que lui, plus que son nom d'ailleurs. C'est un cinéaste qui a beaucoup travaillé, où sa grande période c'était dans les années 50-60. Il a été vilipendé par la nouvelle vague, comme beaucoup de ces cinéastes. Et Grangier a tourné avec tous les grands comédiens de ces années-là, hein, Gabin, bien sûr, avec lequel il a fait 12 films, Bourville, De Funès, Ventura, Fernandel, Jeanne Moreau, Blié, Saturne Infâme, Danny Carrel, enfin, c'est vraiment tout le cinéma. Et ses entretiens, ses films par film, et Grangier raconte, toute cette époque où, parfois, des producteurs l'appelaient en disant, voilà, j'ai un contrat avec Gary Cole pour 2 films, t'aurais pas une petite histoire à raconter, là? Alors, ils se mettaient à écrire. En 15 jours, ils avaient fait le scénario. Hop, ils tournaient le film et voilà. Et puis évidemment, les plus belles pages sont celles avec Gabin et Audiard. Hein. Il a fait énormément de films avec Audiard. C'est d'ailleurs le titre, Passer la Loire, c'est l'aventure. C'est une phrase de Gabin.
Grangier... Tiens, à propos de Gabin, on écoute un extrait de du Gasoil. Film Gasoil.
Allons-y.
Jamais contente.
Au contraire, je suis très contente comme je suis. Je le serais davantage si je te voyais plus souvent. Mais non, tiens, prends celle-là, elle est plus mûre.
Pas vrai.
Mais si.
Mais non, je te parle pas de la pomme, je te parle de toi. C'est faux de dire que t'es contente. D'ailleurs, tu serais bien la première femme à être contente. Non, ce qu'il y a, c'est que mademoiselle est bachelière, mademoiselle veut rester indépendante, mademoiselle est de son époque, quoi.
C'est tout.
Dans le temps, les femmes, elles restaient à la maison, elles faisaient la cuisine, elles faisaient le ménage, elles repensaient, elles faisaient les cuirs. Mais aujourd'hui, elles votent et elles lisent la série noire. Alors, résultat.
Résultat ?
Eh ben, résultat, elles sont refilées des pommes pas mûres ou des pommes pourries. Et on veut pas des pommes.
Eh ben, laisse-les. Quand je pense que j'ai pris un amant au lieu d'un mari pour me distraire, eh ben, on peut dire que le péché ne paye pas.
Mais vous n'avez pas toujours dit ça, dites donc.
Extrait de Gasoil avec Jean Gabin et Jeanne Moreau.
Voilà, 1955. C'est sans doute, ça fait partie des 3-4 grands films de Grangier, avec Abel le désordre et la nuit, et puis avec Le sang dans la tête. C'est l'histoire d'un camionneur joué par Gabin, qui croit un jour écraser un homme. En fait, cet homme était déjà mort et il s'avère que c'était un type qui venait de faire un braquage, et évidemment les méchants le... Et c'est surtout, comme souvent chez Grangier, d'abord, un, il tournait en extérieur, comme quoi c'est pas la nouvelle vague qui a inventé le tournage en extérieur. Et puis deux, il était témoin de l'époque des années 50, là en l'occurrence, il racontait Jeanne Moreau, c'est sa maîtresse, elle est institutrice, elle travaille, elle est indépendante, et il racontait vraiment cette époque-là, ses transformations, les Trente Glorieuses, et c'est un cinéaste qui est aussi parvenu à être témoin de son temps, et c'est assez remarquable de le revoir aujourd'hui, parce que ce sont vraiment des témoignages des années 40 et des années 50.
Et puis après, dans sa filmographie, il y a aussi ce sommet qui est le Cave sur Rebif, dont certains osent dire que c'est plus drôle que les Tontons Flingueurs.
Et moi-même, alors le Cave sur Rebif, il y a 3 bouquins de Simonin qui ont été adaptés dans la trilogie de Max le Menteur. Il y a Le Rouge Émis de Jean Becker, de Jacques Becker, pardon, Les Tontons Flingueurs de Lautner et effectivement le Cave sur Rebif de Grangier. Et je dis que c'est effectivement meilleur des trois, mais largement au-dessus.
Avec une Françoise Rosée mythique.
Vous envoyez le courrier, Éric Libio. pour se faire du bien pendant les vacances de Toussaint.
On envoie les roses, plutôt.
Gasoil, Le Cave sur Rebif et ce livre d'entretien entre Gilles Grangier et François Guérif, Passer la Loire, c'est l'aventure, et c'est publié chez Actes Sud. Guillemette Audicino, en ce moment, vous vous régalez de sketchs de Jean Poiret et Michel Serrault, publiés chez Calman Lévy.
Oui, alors absolument. On revient dans le noir et blanc, dans l'image en noir et blanc. Donc ce sont les enfants de ce... de ce duo absolument mais éternel, donc Nicolas Poiret, Sylvie Poiret et Nathalie Serrault, qui ont eu l'idée géniale en fait de compiler les sketchs de leur papa. Alors évidemment, c'était des sketchs qui étaient dans les cabarets de l'époque ou même à la télévision. On imagine le noir et blanc dans la tête, mais alors c'est d'une modernité et d'une insolence. Il y en a certains, vous les mettez jouer par exemple par Jean Dujardin et je sais pas et Paul Vord, ça marche aujourd'hui. C'est totalement absurde. Ça parle de politique de manière décalée, très drôle. Juste un tout petit extrait. Donc c'est le musée de l'homme est au salon de l'homme, ce que le musée Carnavalet est au salon de l'auto. C'est ça. C'est-à-dire que s'adresse avant tout aux amateurs d'art, alors que vous, c'est plutôt aux clients, aux acheteurs éventuels. Oui, mais ça reste beaucoup plus sur le plan commercial. Tout à fait. Mais vous présentez quoi exactement à ce salon de l'homme ? Nous présentons en chair et en os tous les types d'hommes connus jusqu'à présent. Ah, donc des gammes de modèles assez étendues. Oui, oui, une assez vaste collection. Mais quel genre ? Eh bien écoutez, nous allons du cheminot décharné au colonel en retraite, en passant par les paysans cupides, le député radical et le peintre de génie. Alors plus loin, évidemment, quand même, le présentateur demande à quoi ça sert. Hein. Mais tous ces humains sont à vendre. Nous sommes d'accord ? Bah oui, c'est le principe même de la chose. Oui, je le savais, mais je tenais à vous le faire préciser. D'ailleurs, par définition, l'homme est à vendre, vous le savez. C'est ça, je sais, oui. Le tout est de trouver un acheteur, mais je sais que l'homme est à vendre. Et ça, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des phrases et les appliquer directement au monde d'aujourd'hui, et ça marche.
Les sketchs de Jean Poiret et Michel Serrault, c'est disponible chez Calman Lévy. Christine Ferniaud, un poche un peu fou, publié chez Folio, Le chant du poulet sous vide, de Lucie Rico, et ça va plaire à Angèle Ferremac, je sens.
Mais c'est... mais exactement, mais ça
le
tombe
chant du
très,
poulet
très
sous
bien.
Vide.
Le chant du poulet sous vide de Lucie Rico est un livre complètement dingue, qui a un peu passé inaperçu en grand format et qui arrive en Folio, Dieu merci, parce qu'il faut absolument le lire. L'histoire, en fait, c'est une jeune femme qui hérite de sa mère tout un élevage de poulets. Et donc, elle est végétarienne, elle tue les poulets et elle doit les vendre au marché. Mais bon, elle trouve que tout ça est un peu banal. Je vous résume, elle fait des biographies de chacun de ses poulets. Donc, elle écrit un petit texte avec le poulet sous vide. Par exemple, il y a Théodore. Théodore était de caractère libre, indépendant et malicieux. Il y a aussi Léna qui est... plutôt beau gosse avec sa belle crête bien vissée qui finit en dentelle, ou Lolita, courant plus vite que les hommes, plus vite que la tramontane, comme pour échapper au sort. C'est une splendeur, ce livre. Et ça monte en gravité, en horreur absolue, parce que non seulement elle tord le cou de ses poulets pour les mettre sous vide et raconter leur biographie au marché, mais elle va trouver aussi que les hommes ne sont pas toujours à la hauteur. Donc ça va finir dans un truc abominablement sanglant et absolument merveilleux. Lucie Rico est un génie, cette fille. Je ne sais pas ce qu'elle écrira plus tard, mais avec ce livre-là, elle entre dans le panthéon des abominations.
Le chant du poulet sous vide de Lucie Rico, c'est disponible chez Folio. Et puis tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur l'appli et le site de France Inter. Éric Libiot, il existe le BGG, le bon gros géant, le BCG, le vaccin contre la tuberculose, et il y a le BGP, le bon gros polar.
Ah.
Et vous avez adoré
c'est ça.
L'innocence et la loi de Michael Connelly.
Vous suivez, hein, aujourd'hui, hein.
C'est comme pour vos chroniques, hein, c'est pareil. Vous avez adoré L'innocence et la loi de Michael Connelly, publié chez Calman Levy.
Voilà, Michael Connelly est sans doute un des auteurs les plus vendus et les plus lus chez lui et en France. Là, c'est un roman de tribunal avec tout ce qu'il y a, c'est-à-dire objection, votre honneur, retenue. C'est absolument. Et tout le roman, c'est 500 pages, tout le roman, c'est incroyable. Ça. Et c'est d'autant plus incroyable que Michaeler, qui est avocat d'habitude, là, il est aussi accusé de meurtre. Donc, aux États-Unis, on peut se défendre soi-même. Donc, il est à la fois avocat et accusé. Et toute le système judiciaire américain est passé au tamis. C'est des rebondissements, du suspense. Des objections de votre honneur, en veux-tu, en voilà, et ça fait partie des 10 grands romans de Connelly, vraiment, ça faisait longtemps qu'il n'avait aussi bon, les derniers étaient quand même un petit peu moyens, bon, il se maintient à 10-12, là, il atteint les 16-17.
Christine Ferlio.
Ah, je suis entièrement d'accord, c'est un livre formidable, mais Connelly quand même, depuis le temps qu'il écrit, il est jamais mauvais, parfois il a un petit coup de faiblesse.
La petite moyenne,
et là, je suis d'accord avec Eric, c'est-à-dire qu'un livre de tribunal, il n'y a rien de plus ennuyeux que ça, et il arrive à nous faire partir de façon fabuleuse dans une histoire abracadabrante et Michael Hurt est un personnage très drôle, très fin, très smart.
Et puis en plus, on découvre toutes les arguties du système judiciaire, il explique tout ça. La fin est très réussie, parce qu'en général, chez Connelly, ça passe en vitesse. Vraiment, c'est un très bon millésime.
Le bon gros polar d'Éric Libio, c'est L'innocence et la loi de Michael Connelly, et c'est publié chez Calman Lévy Noir. Dans un instant, la recette de niflette d'Angèle Ferremag, et en attendant, c'est l'heure de la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Et ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, vous revenez sur le succès d'une série coréenne dont tout le monde parle, interdite aux moins de 18 ans, on en parle même dans les cours de récréation, Squid Game, diffusée sur Netflix.
Oui Ali, je me dis que même Thomas Pesquet a dû en entendre parler tout là-haut dans son petit vaisseau spatial, tant la conversation publique autour de cette série est forte.
This is the front man speaking. Preparations for the first game are complete. You can begin now.
Alors je ne parle pas suffisamment bien le coréen pour faire une traduction simultanée, mais cet extrait c'est le début d'un jeu d'enfant que tout le monde connaît, 1, 2, 3 soleil, sauf que dans cette série, si on bouge, on n'est pas éliminé du jeu. On est purement et simplement exécuté. Squid Game raconte en effet les aventures de personnages qui acceptent de participer à des jeux. S'ils perdent, ils sont tués, mais s'ils gagnent, ils gagneront évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. De quoi éponger toutes leurs dettes et espérer retrouver une dignité perdue. Le dispositif est assez simple et la série pose de très intéressantes questions morales et politiques sur lesquelles on pourrait faire plein de chroniques, hein, rassurez-vous, ça viendra. Mais que l'on fera donc un peu plus tard pour ne pas divulgâcher auprès de ceux ou celles qui ne l'ont pas encore vu. Ce qui m'intéresse, moi, d'abord ce matin, c'est surtout que tout le monde en parle, comme vous l'avez dit, Ali, parce que ça indique que l'on a affaire à un objet de culture populaire et qu'elle est donc une formidable occasion de poser la question suivante.
Pourquoi les séries sont-elles si importantes dans la culture populaire aujourd'hui ?
Merci Ali pour cette question.
Je suis là pour ça. Hein.
Voilà. Pourquoi donc ces séries sont-elles devenues si importantes ? Réponse, eh bien parce qu'elles renouvellent en profondeur notre culture populaire, qui n'est plus donc constituée de contes et légendes régionales, ou de fêtes ou de traditions locales, mais aussi de fictions sérielles que nous suivons assidûment et qui deviennent, comme le remarque la philosophe Sandra Laugier, la matière ordinaire de nos conversations. Ce concept de culture populaire peut être décrit, je crois, à travers 4 de ses significations. Premier sens, une série comme Squid Game est populaire parce que tout simplement, elle a de la popularité, elle a une large audience. Depuis le 17 septembre, son lancement sur Netflix, elle a été vue par plus de 120 millions de spectateurs dans le monde. Deuxième sens, cette série est populaire parce qu'elle est immédiatement accessible. Elle ne requiert aucune connaissance de l'histoire des séries ou elle ne requiert aucune expertise particulière pour que son visionnage constitue une bonne expérience pour le spectateur, à la différence d'un opéra, d'une performance de la FIAC ou d'un poème de Mallarmé. Ensuite, cette série, troisième sens, est populaire parce qu'elle met en scène un peuple, des hommes et des femmes ordinaires, en leur donnant accès aux coulisses d'un système de pouvoir. Comme pour les séries policières, hospitalières, carcérales ou politiques, elles participent d'un inventaire critique des lieux de pouvoir. Et enfin, quatrième sens, Squid Game est un objet de la culture populaire au sens où elle a un impact sur le réel. Son imagerie, les jeux qu'elle met en scène passent la frontière de la fiction et sont repris, par exemple, en ce moment, de façon brutale dans certaines cours de collège, ou moins brutale dans certaines reprises sur les réseaux sociaux à travers des images, des mèmes, des motifs. Et tout ça se traduit par de nouvelles expressions ou de nouvelles habitudes de consommation. Alors voilà au moins 4 raisons de ne plus considérer ces séries comme le nouvel opium du peuple et 4 raisons pour expliquer l'importance de cette culture populaire des séries.
Thibaut de Saint-Maurice. Et vous pouvez lire, tiens, avec profit, Nos vies en série de Sandra Laugier. C'est publié chez Climat. Julien Bisson.
Ce qui est frappant, c'est que c'est pas un phénomène totalement nouveau, cette idée de personnes qui sont enfermées et qui sont offertes à une violence. Il y a au moins deux exemples qu'on peut revenir dans le passé. Punishment Park en 71 et Battle Royale dans la fin des années 90. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les personnes qui sont représentées, qui sont victimes de ces systèmes, on voit une évolution de la figure du marginal. Dans Punishment Park, c'était des hippies qui ne voulaient pas faire la guerre et on est dans la dénonciation d'un système gouvernemental autoritaire. Dans Battle Royale, c'était des écoliers, on était dans la dénonciation de la culture de la violence. Et ici, ce sont des personnes lourdement endettées. Et donc, on est plutôt sur vraiment la violence économique de notre société.
Après, il y a quelque chose quand même aussi de frappant sur le cinéma coréen, enfin en tout cas sur la série coréenne, c'est sa capacité à être vraiment Reader Digest de plein de trucs. Battle Royale, et je ne citerai pas l'autre référence parce qu'autrement je pourrais divulgâchouiller. Mais en fait, quand on connaît un peu le cinéma et les autres séries et l'histoire du cinéma et l'histoire des séries, on a compris très vite qui organise le Squid Game.
Thibaut de Saint-Maurice, parmi vos multiples casquettes, vous êtes le cofondateur et président du Paris Podcast Festival qui s'est achevé le week-end dernier. Coup de projecteur sur le podcast Frouch, avec deux O, Frouch, qui a remporté un prix pour sa saison 2, une fiction audio qui raconte les aventures d'une comédienne à Paris. C'est signé et interprété Sarah Trey-Stéphanie.
Oui, c'est une fiction strictement audio, donc c'est un ensemble d'épisodes. La saison 2 comporte 16 épisodes qui sont entre 4 et 13 minutes que vous pouvez écouter. C'est gratuit, c'est disponible sur la plateforme Spotify, mais donc gratuitement. Et on suit dans cette deuxième saison donc les tribulations de Sarah essaye de devenir comédienne, qui est en train d'essayer de monter un premier spectacle et puis un deuxième spectacle. On est dans une forme d'autofiction complètement assumée, mais il y a quelque chose de très particulier qui se noue, c'est que comme on n'a absolument aucune image et qu'on est juste très souvent en train d'écouter cette série au casque, dans les transports, en train de faire du sport, etc., il y a une forme d'intimité qui se crée avec le personnage. On a l'impression d'être le témoin des coulisses de son existence, parce qu'elle fait souvent des mémos vocaux à elle-même, en fait, pour raconter ce qui se passe. Et donc, il y a cette situation très particulière qui n'existe pas souvent dans la fiction. On a l'impression d'être le complice, le témoin de ce qui se passe. Donc, je recommande vraiment, voilà, Frouch, saison 2, saison 1, bien sûr, aussi, si vous ne connaissez pas. C'est disponible, c'est gratuit sur Spotify en tant que série audio.
Et c'est signé Sarah Trey, Stéphanie. Je sais pas vous, mais moi, j'ai très très faim. Angèle Ferremag, un très bon goûter pour ce week-end, pour les vacances de la Toussaint, mais aussi pour le petit déjeuner, pour... voilà.
Pour quand on veut.
Les niflettes
de Provins. Oui, parce que comme la fête des rois a sa galette, Noël a sa bûche, la Chandler ses crêpes et Pâques ses œufs en chocolat, eh bien, la Toussaint a son gâteau, la niflette, à mes souhaits. Donc la niflette de Provins, qui vient de Seine-et-Marne, qui célèbre d'ailleurs en grande pompe cette petite tartelette qui fait leur fierté, se cuisine de mi-octobre à mi-novembre, pendant la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, mais surtout les semaines de vacances, où c'est donc le moment de pâtisser à la maison avec les enfants, par exemple. Donc cette recette daterait du Moyen-Âge, c'est une pâtisserie qu'on offrait aux orphelins qui se recueillaient sur la tombe de leurs parents. C'est un peu triste, mais en fait, niflette, ça vient du latin ne flete, qui veut dire ne pleure pas. Donc c'est quand même assez joli, c'est un gâteau réconfortant dans tous les sens. Donc cette mini tartelette qui est à base de pâte feuilletée, garnie de crème pâtissière au goût délicat de fleurs d'oranger, qui ressemble un peu, pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Portugal,
portugaise.
Exactement, qui ressemble au pastéis de nata, qui est donc un petit peu ce mélange crémeux et croustillant. Donc pour réaliser vos gâteaux de la Toussaint, sans tousser, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Il vous faut un bon disque de pâte feuilletée. Donc si vous ne le faites pas de maison, choisissez...
C'est compliqué la pâte feuilletée maison.
Oui, ça met plusieurs... En fait, moi je mets 3 jours. À la guinguette, on met 3 jours pour la faire. Donc achetez-la, mais alors achetez-la de bonne qualité, au beurre AOP de Poitou-Charente, par exemple.
Sans huile de palme.
Donc, sans huile de palme, bien sûr. Donc vous étalez votre disque de pâte feuilletée, vous l'écrasez évidemment légèrement, vous percez avec une fourchette un petit peu partout et à l'emporte-pièce, à peu près 7 cm. Alors je vous donne plein d'astuces toujours parce qu'on n'a pas toujours ces trucs à la maison. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, il vous suffit d'avoir un verre. Et souvent on a des verres. Donc on emporte en fait pièce ces petits ces petits cercles percés. On va les laisser refroidir un petit peu au frigidaire. Et on va faire la crème pâtissière, comme une crème pâtissière. C'est pas exactement pareil. Donc pour cette crème pâtissière, on va battre 2 jaunes d'œufs avec 50 grammes de sucre. On peut mettre du miel si on veut, ou du rapadura qui est un sucre complet. On va ajouter 1 cuillère à soupe de farine et on va fouetter le mélange en ajoutant peu à peu 25 centilitres de lait. Moi j'aime bien mettre du lait d'amande bien chaud. Ensuite, on va mettre la préparation à épaissir dans une casserole à feu doux jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance un peu épaisse, comme la consistance d'une mayonnaise maison. Ensuite, on va couper le feu, on va laisser un peu refroidir, ajouter la fleur d'oranger ou de la vanille, on peut même les faire nature, enfin selon ce qu'on a. Et on va ensuite déposer donc cette sorte de crème pâtissière au milieu de nos petites tartelettes. Alors idéalement, on a une poche à douille. Si on n'a pas de poche à douille, on peut tout à fait utiliser un sac de congélation qu'on percera dans le coin et ça fera comme une poche à douille. Donc on va mettre notre préparation de crème en glace juste au centre. On va vraiment laisser 1 centimètre autour parce que la pâte feuilletée en fait va surmonter la crème pâtissière au four. Elle va gonfler, elle va former des rebords naturels qui vont emprisonner la crème onctueuse et ferme. Et on va mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés en surveillant bien la cuisson. Et on va déguster en s'embrassant plutôt qu'en regardant Squid Game.
Et comment peut-on retrouver cette recette, Angèle ?
On peut la retrouver sur mon compte Instagram ou sur le site internet de Grand Bien Vous Fasse.
Et dans 15 jours, vous retrouverez les recettes du camarade Grégory Cohen. Et Thibaut de Saint-Maurice vous fusille toujours du regard parce que vous n'avez pas apporté de niflette.
Bah oui, les habitudes, ça se prend vite.
Dans un instant, vous retrouverez la chronique sexe de Maya Mazarin. Interpréter les jolies choses.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obsédé par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
La chronique sexe du vendredi avec Maya Mazorette. Et tu t'intéresses également à des fictions réconfortantes.
Oui, et puis l'avantage en sexo, c'est qu'on n'a pas besoin d'en passer par Squid Game ou par la littérature. Les fictions, on se les invente tellement bien tout seul. On a même un talent démentiel pour ça. C'est les hommes qui croient sincèrement que leur épouse a la migraine chaque samedi soir depuis 44 ans. C'est les femmes qui achètent des préservatifs XXXXXL à leur amant, alors que calmons-nous, la taille normale suffirait amplement. C'est votre meilleur ami qui affirme que sa copine ne simule jamais. Oh ! Ou ce collègue de bureau qui vous dit « Tiens, c'est trop bizarre, je tombe que sur des femmes vaginales. » Ah oui, c'est bizarre ça. C'est votre nièce qui épouse son bien-aimé en promettant devant 400 personnes que son couple et son désir dureront pour toujours, c'est sûr. C'est votre copine d'abdo-fessier qui raconte à qui veut l'entendre que son mari ne la trompera jamais parce que tu vois, Charles-Antoine, c'est vraiment un mec bien, il n'est pas comme les autres. Je pourrais multiplier les exemples de nos petites naïvetés. Je pourrais retourner le couteau dans plein de plaies. Je pourrais donner les chiffres du nombre de femmes qui simulent dans ce pays, les 2/3 d'entre elles. Mais en vrai, je suis admirative de notre capacité collective d'invention et notre acharnement dans le déni. L'humanité est formidable, y compris quand elle porte des œillères grosses comme des 33 tonnes.
Mais pourquoi est-ce qu'on se raconte autant d'histoires, Maya ?
Oui, alors ma théorie là-dessus est assez austère. Le sexe, le désir, le plaisir ne sont pas démocratiques. Quand votre mari vous abandonne, il prend une décision unilatérale, mais elle est valable pour deux. Quand quelqu'un n'a pas envie de coucher avec vous, votre désir n'a aucune importance. Et puis ce désir, de toute manière, il est par essence asymétrique. Il y a des gens plus physiquement désirables que d'autres, point barre. Il y a aussi des gens plus sensibles que d'autres qui auront des orgasmes plus facilement que leurs voisins. Et c'est complètement injuste, mais c'est pas négociable. Et de toute façon, à la fin, tout le monde finira attrapé par le temps. Le désir n'y survit pas, on meurt seul, dévoré par nos chiens. Alors, je sais que tout ça a asséné avant 11h du matin, c'est pas la fin d'émission idéale. Mais non. Je crois que c'est bien des fois d'arrêter de faire, je t'en prie, Ellie, d'arrêter de faire comme si le sexe n'était qu'un plaisir merveilleux offert par la nature. La nature est une chienne qui ne nous doit que dalle et qui des fois nous prive de notre plaisir, ou de notre libido, ou du prince charmant, ou des trois à la fois.
Je trouve que tu dis un peu trop sur un Schopenhauer en ce moment, Maya. Doit-on comprendre que le sexe est un univers impitoyable?
Oui, des fois le sexe est vraiment dur. Je laisse en silence. Mais le sexe est encore plus dur quand on ne peut pas parler de cette dureté, quand on entretient cette forme de déni. Si on pouvait plus souvent échanger sur l'injustice profonde qui régit nos vies sexuelles, on se ferait du bien, on baisserait les attentes, on baisserait les tensions, on arrêterait de croire que le plaisir tombe du ciel et au passage que le bonheur nous est dû. En fait, on aurait plus de gratitude et ça nous ferait du bien. En vrai, du sexe qui marche avec des gens qui se désirent et qui jouissent, c'est un miracle et c'est un miracle à chaque fois. Eh ouais, le sexe est impitoyable et c'est ça qui lui donne sa valeur et c'est pas aberrant de vouloir donner de la valeur au sexe. Ensuite, la question c'est, est-ce qu'on se réconforte avec nos petites fictions ou est-ce qu'on entretient nos trois malheurs à coups d'espérance délirante? Est-ce qu'il ne faudrait pas en sexe embrasser la non-fiction, embrasser non pas le réconfortant mais le déconcertant? Sur ce point, c'est à chacun de faire son choix, mais en vrai, j'aime bien nos fictions réconfortantes, parce que le décalage entre fiction et réalité du terrain me fournit une somme infinie de sujets de chronique, donc une source infinie de revenus. Continuez de vous raconter des histoires, je ne serai jamais au chômage. Les fictions des uns font le bonheur des autres, et ça, ouais, c'est réconfortant.
En fait, le sexe n'est pas fonctionnel obligatoirement.
La chronique sexe de Maya Mazorette à partager sur l'appli et le site de France Inter. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. Merci à la chouette bande du vendredi. Merci Julien, Eric, Guillemette, Thibaut, Angèle, Christine et Maya.
Merci.
J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron, de Christophe André et d'André Manoukian. Et lundi dans Grand Bien Vous Fasse, nous attendons toutes vos questions sur la maladie de Crohn et les pathologies inflammatoires de l'intestin. Dès maintenant, vous pouvez nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.